Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais commencer par une série d'excuses. Les premières excuses sont dues pour le changement de titre et outre le fait que j'ai... Alors, en fait, c'était mon titre initial, j'ai rechangé, puis j'ai de nouveau changé. Outre cela, comme je vais le dire très vite, en plus du fait d'avoir changé, donc mon titre est en plus mensonger, parce que je ne vais pas traiter tout à fait de toutes les branches du droit, mais je vais essayer de démêler plutôt, plus particulièrement la question de savoir jusqu'à quel point... On peut, à partir de la philosophie du droit hégélien, rendre compte de la summa divisio entre droit privé et droit public plus particulièrement. La deuxième série d'excuses concerne le fait que, voilà, c'est le jeu du colloque. Il se trouve que ce que je vais dire recoupe en grande partie des thèses qui ont été excellemment énoncées tout à l'heure par Sabina Tortorella. Donc, nous sommes en fin de journée, tout le monde est très fatigué. Donc, je vais essayer de m'appuyer dès lors sur ce qu'elle a très, très bien dit pour éviter au maximum de faire des redites. Mais voilà, il y en aura peut-être quelques-unes. Enfin, la dernière série d'excuses les plus particulières, c'est à l'attention de ceux qui ont assisté à la séance du séminaire Hegel de cette année, puisque je vais là reprendre certains des éléments que j'avais essayé d'analyser à cette occasion. Voilà, les excuses étant faites, je voudrais ajouter des remerciements parce qu'à vrai dire, l'idée de cet exposé, donc sur Hegel et les différentes branches du droit, ou plus particulièrement sur les distinctions droit public, droit privé chez Hegel, eh bien, je la dois en réalité à une correspondance avec Benoît Plessis, qui n'est pas un hégélien, mais qui est un éminent administrativiste de notre université, et qui m'a soumis une série de questions justement sur cette division chez Hegel, et donc d'un point de vue de juriste. Et j'étais très ennuyée pour lui répondre, à vrai dire, et c'est un petit peu voilà, le résultat des réflexions, des pistes que je soumets ici à votre bienveillance dans les éléments de réponse que j'essaie de lui fournir. Et je lui dois des remerciements parce que ces questions m'ont beaucoup, beaucoup intéressée et stimulée. Alors, l'objet de mon intervention, je le disais, c'est de savoir jusqu'à quel point on peut rendre compte, à partir de la philosophie hegélienne du droit, de la summa divisio entre droit privé et droit public. Et deux questions subséquentes suivent de cela. Où placer exactement cette division dans l'économie générale des principes de la philosophie du droit? Première question. Deuxième question. Un tel dualisme est-il de mise pour Hegel? Et est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça n'est pas réducteur, finalement, de concevoir la détermination hegélienne du droit à partir de ce dualisme entre droit privé et droit public? Alors, ces questions, et je vois bien que le propos de mon exposé fait que je prête le flanc aux objections à la fois des juristes et des philosophes, mais c'est le jeu et je serais ravie justement d'avoir vos remarques. Alors, ces questions, en réalité, ces questions relatives à la summa divisio droit privé, droit public, à partir de la détermination hegélienne du droit, pour être tout à fait franche, c'est en réalité une trame. Que j'utilise ici pour tâcher de penser les lieux du droit en ces différentes modalités, leur mutuelle articulation, mais aussi pour essayer d'éclairer la manière dont on peut se comprendre chez Hegel, finalement, le droit public et plus particulièrement le droit de l'État. En effet, pour lever dès maintenant un suspense fin, et d'autant plus fin que je sais bien que je parle là devant un public d'éminents hegéliens, il est bien évident qu'on peut trouver chez Hegel une distinction entre droit privé et droit public. Plus encore, cette distinction, en réalité, elle est même fondamentale. Sabina l'a rappelé tout à l'heure, ça a été rappelé dans plusieurs des interventions. Cette distinction, elle est même fondamentale aux yeux de Hegel pour comprendre ce qu'est véritablement l'État et pour ne pas le confondre précisément avec la société civile. Ainsi, en réalité, le véritable but, de cet exposé, outre la détermination du lieu de ce partage et de la pertinence de ce dualisme en contexte hégélien, eh bien c'est en réalité de mieux cerner le concept hégélien d'État, en réalité si déroutant et qui ne cesse pas, je crois, d'être déroutant, à partir de la conception du droit public qui lui est intrinsèquement lié. Autrement dit, si l'État est à l'évidence un concept central de la philosophie du droit et de la philosophie politique de Hegel, ce que Hegel désigne par l'État, ce hiéroglyphe de la raison, dit-il, eh bien demeure opaque et reste l'objet de malentendus multiples. Et mon espoir, eh bien, c'est de participer un petit peu par cet exposé à en lever quelques-uns, en essayant de dégager quelques aspects du concept de droit public que la philosophie hegélienne met en jeu. Alors, thèse, point de départ hein, de mon exposé. Dans l'économie générale des principes de la philosophie du droit, le lieu de la distinction entre droit privé et droit public ne peut pas être situé entre les sections droits abstraits, qui est la première section hein, donc des principes, et la section éthicité. Mais c'est au sein même de l'éthicité qu'elle se joue, et plus particulièrement à travers la distinction entre société civile et État, avec des complications, comme toujours peut-être avec la famille, et chacun sait que la famille est toujours problématique. Et là, c'est effectivement le cas, je pense, justement, pour penser cette distinction. Alors, partant de là, je sais que tu as une série de questions que je vais tâcher de répondre. Première série de questions, si la section droit abstrait énonce bien, comme la grammaire ou encore les principes du droit privé à partir de son noyau, qu'est le concept de personnalité et avec lui celui de propriété et celui de contrat. Première question, eh bien, quels sont les principes? Alors, question qui peut paraître naïve, qui n'est pas hégélienne et qui n'est pas orthodoxe en régime hégélien, mais la question peut se poser, là, d'un point de vue plus extérieur. Quels sont les principes ou quelle est la grammaire, au fond, du droit public et où sont énoncés ces principes? Deuxième, j'avance là dans le questionnement, comment penser un autre droit finalement que celui qui répond au principe du droit formel énoncé dans la section droit abstrait? Comment parvient-on à une telle chose? D'où sort une telle chose? Et cette chose, on le sait, elle est encore une fois décisive pour éviter l'écueil de la confusion entre société civile et État la réduction de l'État à la société civile qui est à tous égards dommageable et notamment... Parce qu'il en va ici, aux yeux de Hegel, du lieu du politique à proprement parler. Dernière série de questions, plus polémiques, et qui s'ensuit, le droit de l'État est-il juridique? Peut-on comprendre l'État strictement juridiquement, ou du moins s'entordre considérablement le type de droit dont la grammaire est donnée dans la section droit abstrait? Autrement dit, et c'est la question en réalité hein, qui travaille mon exposé, qu'est-ce que cette chose que l'État? Et pourquoi finalement Hegel en vient-il à penser cet État séparé de la, pardon, séparé, pardon, distinct de la société civile, distinction et articulation dont on lui reconnaît volontiers la paternité? Alors, ce sont à ces questions que je voudrais ici donner quelques éléments de réponse, en commençant par examiner en quoi et comment la société civile peut se donner comme lieu de plein épanouissement des principes du droit privé. Premier moment. Puis en examinant les raisons pour lesquelles Hegel récuse qu'un tel type de droit puisse être constitutif ou générateur de l'État, avant de mettre en lumière quelques aspects des concepts positifs d'État des concepts, alors là, classiques hein, du droit public interne, que sont donc la souveraineté et la Constitution, afin donc de dégager quelques traits de la manière dont on peut finalement déterminer quelque chose comme du droit public en contexte hegélien. Premier moment, donc, les raisons, les caractères pour lesquels la société civile peut passer pour le lieu privilégié d'accomplissement et d'effectuation du droit privé. Je vais aller assez vite parce que Sabina a déjà donné des traits fondamentaux de cette chose. Alors, de manière générale, hein, pour comprendre ce point, il faut rappeler, cela est su, que le droit, en tout cas le concept générique de droit, chez Hegel, est extrêmement large puisqu'il recouvre, dit Hegel, toutes les configurations que la volonté libre peut se donner donc en tant qu'elle s'objective, en tant qu'elle s'effectue, en tant qu'elle se donne elle, un être-là, une existence, donc dans l'objectivité. C'est la fameuse définition donnée au paragraphe 29 de l'introduction des principes de la philosophie du droit. Or, la première objectivation de cette volonté libre, et dont la première section, donc le droit abstrait, et l'exposition, eh bien, c'est l'existence que se donne la volonté particulière dans l'extériorité première, dit Hegel, et dans les choses en général, d'où le fait que les concepts fondamentaux que pose cette première partie soient les concepts de personne, c'est-à-dire l'individu en tant que, précisément par la culture et le processus d'acculturation, il prend possession de lui, de son corps, de son esprit. Il se forme, et c'est une sorte d'appropriation primitive qui est comme au fondement de l'appropriation des choses. J'ai vu que Michael Dziphara était dans la salle. C'est un point qu'il a très clairement développé dans un article. Premier concept fondamental donc, du droit abstrait de la personne, Et à partir donc de cette appropriation première qui est constitutive de la personne, eh bien, s'ouvre la possibilité d'une appropriation des choses, ce qui ouvre au deuxième concept fondamental de cette partie, qui est celui de propriété, lequel se déploie plus avant en contrat. Or, la partie droit abstrait, elle donne, je le disais tout à l'heure, en quelque sorte la grammaire ou encore les concepts et principes fondamentaux, mais justement abstraits, qui donnent les conditions d'un état légal en général, à savoir, encore une fois, donc en premier lieu, ce concept de personne, le sujet de droit. Sujet de droit et concept de personne qui implique nécessairement l'égalité précisément des personnes, puisque la personne ainsi comprise se détermine justement abstraction faite de ses particularités de naissance, de richesse, de talent et de toutes ces déterminations, de toutes ces déterminations sociales. Mais cette présentation, je le disais, est très justement abstraite, elle est abstraction faite des déterminations sociales, et c'est en réalité dans la société civile, au sein de l'éthicité, donc seulement, qu'est donné le lieu d'existence ou encore de pleine effectuation et d'efficience, donc des catégories que cette partie droit abstrait expose pour elle-même, abstraction faite, encore une fois, de tout contexte social. Donc, le droit privé, peut-on dire, trouve dans la sphère sociale son champ d'exercice privilégié. Et c'est aussi ce point qui donne en réalité la nature et la mesure des rapports des volontés individuelles en jeu dans la sphère sociale et qui caractérise le rapport social. Alors, cette société civile, cela est su, le trait fondamental qu'il faut en premier lieu énoncer, c'est que ce qui la caractérise, enfin, une des manières de la désigner qui revient très souvent sous la plume de Hegel, c'est qu'elle est état extérieur. État extérieur seulement, et de fait, on peut comprendre ce qu'est la société civile à partir de cette catégorie d'extériorité. Son premier moment, le système des besoins, eh bien, se détermine, donc sur le fondement de la division du travail, se détermine comme système de dépendance multilatérale qui va bien décider un ordre, une connexion entre les individus, précisément fondée sur cette division du travail, mais qui reste justement extérieure seulement, extérieure à la volonté et à la conscience des individus eux-mêmes. Autrement dit, dès son premier moment, qui est moment de production des richesses, la société civile met en place la création d'un ordre qui est comme spontané et comme auto-engendré du fait même de la production des richesses, elle-même assise sur la division du travail. Mais en réalité, cette première caractérisation, elle appelle aussi à ce qui se présente comme une mutuelle implication du droit et du marché. Alors, du droit, là, strictement comme droit privé dans un premier temps. Et en effet, pour paraître spontané et comme auto-engendré, c'est-à-dire produit par l'enchevêtrement des besoins répondant du double processus de la multiplication et de l'abstraction, et c'est cela qui détermine la division du travail. L'ordre qui émerge ainsi, eh bien, n'en est pas moins soumis à des règles qui sont très précisément celles du droit. Et le fait que ce marché soit d'emblée soumis à des règles, eh bien, cela se manifeste déjà en cela que ce ne sont pas en tant que relevant de la prise de possession immédiate que les choses sont présentes dans le système des besoins, mais bien immédiatement en tant que propriété. Autrement dit, le système des besoins et plus largement la sphère sociale en général présuppose le droit privé, dont le droit abstrait a donné comme l'épure, tout autant que cette sphère sociale va effectuer ces catégories du droit privé. La propriété, comme le contrat, se présente ainsi, quant au concept, du point de vue du concept, comme condition de la sphère de la production, des échanges et de son fonctionnement. Toutefois, du point de vue du phénomène, donc là cette fois historiquement, en retour, du point de vue donc de l'existence, l'émergence d'un marché véritable lié à la division du travail, à l'interdépendance des producteurs relativement à leurs productions respectives, eh bien cela, dans le temps, requiert et rend pleinement efficient propriété, contrat et de matière générale déterminité du droit abstrait. Autrement dit, si la sphère sociale, pour des raisons que je ne vais pas préciser complètement ici, peut se donner comme sphère du relatif, elle est aussi celle où le droit trouve son être là. Ce par quoi aussi est assurée une certaine stabilité, notamment dans les échanges, bien que cette stabilité demeure elle-même ambivalente. Plus précisément, dans la société civile, le droit en soi devient loi. Il devient l'identité de l'être en soi et de l'être posé, dit Hegel. Autrement dit, le droit dans la société civile est droit positif en général. Alors, comment peut-on comprendre un petit peu plus précisément ce lien essentiel de la société civile au droit privé ? Alors, dans l'ordre de la nécessité extérieure, le droit, dit Hegel, il est bien juste de dire que le droit advient à titre de simple moyen et qui est moyen en vue de la protection de la particularité. Droit de la particularité dont Sabina l'a dit tout à l'heure, est vraiment la chose qui donne le principe de plein déploiement de cette société civile et notamment dans son premier moment qui est le système des besoins. Autrement dit, le droit vient d'abord à l'existence en tant qu'il est utile aux besoins et qu'il est requis par le développement de leur système. Toutefois, ce rapport de moyens à fin masque un lien plus fondamental du système de la particularité au droit positif et qui se noue très précisément à partir de la détermination du sujet social. Étant sujet de besoins qui sont des besoins sociaux et non strictement naturels, ce sujet social, pour le dire en termes marxiens, est un sujet qui se produit lui-même en reprendisant ses conditions d'existence. Autrement dit, le travail lui-même, rendu de plus en plus abstrait du fait de la division du travail, de plus en plus abstrait et de plus en plus spécialisé, ce travail, l'activité du travail lui-même, transforme ce sujet social, le forme, autrement dit, le cultive. Et à cet égard, on voit que si le système des besoins concerne bien les conditions de production et reproduction de la vie, il n'est pas réductible strictement à cette caractéristique. Ou plutôt, tel est le point important, c'est par les moyens même de cette production, reproduction de la vie à travers la production des richesses, qu'il est tout autant arrachement à l'immédiateté naturelle. Autrement dit, c'est par ce point même que la société civile peut apparaître aussi fondamentalement comme un lieu d'acculturation. Et cette acculturation, encore une fois, n'advient pas en plus du processus de travail, de division du travail ou de système des besoins, mais à même celui-ci. En effet, de manière générale et en particulier dans cette sphère de la société civile, la positivité du droit, elle a d'abord pour sens que le droit apparaît comme quelque chose de donné. Et il est donné précisément, Anon en a dit quelques mots tout à l'heure, sous la forme de la loi. Autrement dit, et c'est un point là qui nous intéresse, la société civile n'est pas le foyer de l'élaboration de la loi, mais en celle-ci, l'individu trouve les lois comme étant là, comme existantes, et elles se caractérisent d'abord pour lui à travers leur objectivité. Ce sont des choses qui s'imposent à lui, qui régissent ses rapports sans qu'il s'en saisisse tout à fait nécessairement consciemment. Autrement dit, relativement à la contingence de l'arbitre, qui est vraiment la détermination de la liberté en cette sphère, les lois se présentent comme faisant face à l'individu, comme autant de règles qui déterminent son rapport avec d'autres arbitres, de telle sorte qu'elles sont ce qui en assure aussi bien le déploiement qu'elles en fixent des limites. Et là, on trouve le point fondamental du droit tel qu'il se donne dans la société civile et qui donne aussi, je crois, les principes du droit privé. Le droit, les lois ici comprises, ce sont ceux qui règlent simplement la mise en rapport des arbitres. Ces arbitres peuvent s'harmoniser, se coordonner, s'entre-favoriser, mais ils sont aussi susceptibles de s'empêcher et de se nuire. Et là, on est vraiment, la détermination kantienne dont il était question tout à l'heure me semble tomber en plein dans cette conception. Là, ici, le droit, c'est d'abord et avant tout un problème de compossibilité de l'exercice des arbitres ou, dirait Kant, de la liberté extérieure sous une loi universelle de la liberté. C'est vraiment ce schéma-là qui est ici en jeu. Et en cela, ce que l'administration du droit protège et garantit, ce sont bien mes propriétés au sens lockéen du terme, c'est-à-dire ma vie, ma liberté et mes biens. Autrement dit, l'institution là, de l'administration du droit, elle assure, par l'exécution des principes du droit civil comme du droit pénal, simplement la coexistence des arbitres et de leur exercice. Cependant, et là il y a autre chose qui se joue ici, par ce truchement de la culture qui a aussi lieu en cette sphère, les lois ne sont pas seulement posées, elles peuvent aussi être reconnues. Et le droit lui-même peut aussi, par cela, recevoir une pleine effectivité. Autrement dit, si dans la société civile, la loi est présupposée, l'effectivité positive du droit, dit Hegel, est redevable de ce qu'il est su et de ce qu'il est voulu, dans une certaine mesure au moins, par les individus, ou en tout cas qu'il est admis familièrement en ces déterminités que sont très précisément les lois. Autrement dit, s'il faut que le droit devienne positif, la société civile, par l'acculturation permise par le déploiement du système des besoins, est aussi le lieu de pleine effectuation et d'actualisation du droit en sa pleine effectivité et aussi avec cette dimension de reconnaissance. Et si tel est le cas, c'est parce que l'organisation moderne de la production et de l'échange, dans le processus d'abstraction en lequel elle consiste, est aussi formation de ce par quoi peut advenir l'homme, à proprement parler, l'homme abstrait, qui, comme personnalité universelle, sujet de droit, se caractérise justement par les abstractions mêmes dont la première partie des principes de la philosophie du droit a montré qu'elles étaient justement le fondement du droit privé, à savoir, encore une fois, la personnalité et la propriété. Donc, ce qui se présente, ce qui advient dans cette sphère, c'est bien l'homme en tant que sujet des droits de l'homme, l'homme des droits subjectifs, dont il faut bien dire, dès lors, qu'il est un produit social. Le résultat donc, du développement moderne de la société civile. Alors, je vais très vite là-dessus, simple, enfin, le corrélat qu'il faut y voir, ou plutôt la conséquence qu'il faut en tirer, c'est que très clairement, pour Hegel, l'homme des droits de l'homme, ça n'est pas le citoyen, le sujet politique, c'est le membre de la société civile, mais ça n'est pas non plus l'homme naturel. C'est un sujet, alors évidemment ceux qui ont Marx en tête voient les échos que cela peut avoir, il est bien évident que l'homme des droits de l'homme est un produit social, est un produit de ce moment de l'histoire qui voit advenir aussi quelque chose comme une société civile, qui, c'est-à-dire une sphère de la vie en commun des hommes qui n'est pas nécessairement immédiatement politique. Une autre implication, et je vais aller très vite là-dessus, une autre implication de la caractérisation du droit qui intervient ici est que par la société civile, la société civile apparaît par là comme lieu par excellence de l'actualisation de la reconnaissance, d'une part parce que en tant qu'État légal en général, elle présuppose une telle chose, mais aussi parce que, d'autre part, le contrat donne comme la matrice des rapports entre les individus en cette sphère. Autrement dit, et je reprends là une expression de Jean-François Kervégan, la société civile se présente comme objectivation du rapport de reconnaissance. Le contrat, et c'est vraiment la matrice là, des rapports qui se jouent en cette sphère, le contrat actualise la forme juridique de la reconnaissance en ce que ce sont bien des personnes, ce sont bien en tant que personnes et en tant que propriétaires qui se reconnaissent mutuellement comme tels que les individus entrent en rapport par le contrat. Et là, je vous renvoie à l'extrait de la remarque du paragraphe 71 qui figure en texte 1 de l'exemplier. Autrement dit encore, le contrat, très précisément, est parfaitement opportun et idoine pour saisir le rapport qui est celui des individus entre eux dans la sphère sociale et aussi le rapport qu'ils entretiennent au tout qu'ils constituent tous ensemble. Autrement dit, le contrat est la matrice, est vraiment la structure qui permet de comprendre le type de liaison ici à l'œuvre, à savoir une union, un type d'union qui est simplement, dit Hegel, une association, Gemeinsamkeit, en laquelle les termes précisément ne sont jamais qu'extérieurement liés et non une union ou une unité véritable, Vereinigung, dit Hegel, et ça, c'est ce qui va caractériser plus proprement justement l'État. Donc le point important ici, c'est vraiment la caractéristique d'extériorité de la liaison qui est ici présente et qui renvoie, bien évidemment, c'en est une des déterminations, à la caractérisation de la société civile comme État extérieur seulement. Donc, ce qui se joue dans la société civile, ce sont des rapports de droit privé, qui sont des rapports qui régissent et qui vont dessiner des relations strictement intersubjectives entre les individus. Et cette intersubjectivité, c'est proprement ce qui détermine la sphère sociale. Les individus sont ici en relation en tant que personne, c'est-à-dire en tant qu'individu juridiquement déterminé, titulaire de droit et propriétaire. Et la déterminité juridique du contrat va donner la forme et le principe justement de la liaison présente. Alors, affirmer que la société civile est sphère de pleine actualisation du rapport contractuel, affirmer que le rapport entre les individus dont elle est le lieu se saisit de manière privilégiée sous le prisme du rapport contractuel, c'est aussi dire qu'en cette sphère, c'est toujours par la médiation de leurs besoins, ou plutôt c'est toujours avant tout en tant que propriétaire que les individus se rapportent les uns aux autres, de telle sorte aussi que c'est bien le droit de propriété comme universalité de la liberté abstraite seulement qui est dans le système des besoins principe. Les individus se présentent d'abord comme propriétaires, personnes isolées qui jouissent pour elles-mêmes de certains droits et dont la liaison avec d'autres est toujours médiate et extérieure et entre lesquelles s'intercalent en réalité toujours les choses, puisque c'est bien en tant que propriétaire qu'ils se rencontrent. C'est cela qui détermine véritablement la société civile comme lieu de l'intersubjectivité. Mais c'est également dire que cette connexion, elle reste simplement, alors parce qu'elle reste simplement extérieure et parce que la forme que se donne le droit ici, à travers les déterminations du droit privé, eh bien, se comprend strictement à travers la question de la compossibilité de l'exercice des arbitres, de leur mutuel empêchement. Possible, c'est cela qui fait que l'unité ici présente, eh bien, elle est toujours vécue comme une nécessité, comme quelque chose qui s'impose, comme quelque chose, ou plutôt la figure du droit qui est ici donnée, est possiblement aussi toujours susceptible d'être vécue comme une simple contrainte, d'où, et là, Kant est extrêmement cohérent, hein, introduction de la doctrine du droit. D'où le fait que, selon cette conception du droit, si on s'en tient à cette conception du droit, il est bien évident qu'une de ses caractéristiques principales, c'est évidemment qu'il a la contrainte comme étant quelque chose, un élément qui est spécifiquement lié à son concept même. Or, c'est très précisément cette question du type d'unité, du type d'union, ou encore, et c'est évidemment lié en contexte hegelien, du type de nécessité extérieure ici seulement, qui est précisément fondamentale pour parvenir à la distinction entre État et société civile, d'où la récusation hegelienne du contrat comme pouvant se trouver au fondement de l'État. Et j'en viens très vite à ma deuxième partie, dans laquelle je voudrais examiner ce que n'est pas l'État aux yeux de Hegel et donner quelques-unes des raisons pour lesquelles eh bien, l'État, lorsqu'il est correctement compris, c'est-à-dire, et je crois que c'est vraiment ce qui fait la grande originalité et la grande fécondité du concept hegelien d'État, c'est-à-dire non pas comme un appareil et surtout non pas comme une simple puissance de coercition. C'est vraiment le point fondamental. Oui, on a parlé ce matin. Ce qui caractérise d'abord l'État, c'est qu'il est l'élément, le lieu de la liberté. Et si bien entendu le droit de punir peut lui être corrélé, ça n'est pas ce qui donne son trait fondamental. Ou plutôt, parvenir à une telle conception de l'État où le droit de punir apparaît comme le plus exemplaire de la manifestation de la puissance étatique, à l'instar de Hobbes, d'un auteur comme Hobbes, par exemple, c'est très précisément tomber sous le coup eh bien, de la critique hegelienne qui consiste à dire qu'un État ainsi conçu n'est jamais que la société civile et n'est pas véritablement l'État politique. C'est un État qui reste seulement extérieur. Alors, je vais aller un petit peu plus vite parce que l'essentiel de mon propos se tient en réalité dans ma dernière partie. Je voudrais examiner simplement quelques-unes des raisons précises pour lesquelles Hegel récuse la position contractualiste, alors même qu'il peut sembler qu'il partage des objectifs et des projets communs avec certains des auteurs du contractualisme. Et regardez donc d'un peu plus près le texte qui est là fondamental à cet égard, qui est la remarque du paragraphe 258 des principes de la philosophie du droit. De manière générale, et c'est l'objet du corps du paragraphe, tout l'enjeu, et c'est bien l'enjeu du passage de la société civile à l'État et de la transmutation, je vais y revenir, possible du droit privé en droit public, tout l'enjeu, c'est de sortir d'un simple rapport de finalité externe ou encore d'un simple rapport d'utilité ou encore d'un simple rapport moyen-fin qui caractérise sans doute la détermination du droit quand il se donne comme droit privé et qui caractérise aussi de manière générale le type d'union, le type, la modalité de vie en commun qui est destinée par la société civile. Or, dit Hegel, dans la conception notamment du rapport de l'individu à État, il y a deux écueils qui sont en réalité symétriques et qui reposent sur la confusion de la société civile et de l'État, et qui conduit ou bien d'une part à ne voir dans l'État simplement conçu, donc comme le règne de la contingence, de la force et de la violence, eh bien, une simple contrainte imposée de l'extérieur à l'individu, ou bien, dans l'autre sens, eh bien, cette confusion, elle revient à faire relever de la contingence de l'arbitre individuel l'appartenance du sujet, de l'individu, à l'État. Et c'est ce second point dans lequel vient se loger la critique hegélienne du contractualisme, dont le geste, dit Hegel, revient à donner pour assise à l'État l'arbitre des individus singuliers, leur opinion et leur consentement express relevant du bon plaisir. Je cite ici la remarque du paragraphe 258 des principes. Or, il y a une triple réduction, une triple confusion du contractualisme qui repose en réalité sur la réduction, sur une triple réduction, et ce sont là en réalité trois aspects de la même chose. D'abord, le contractualisme confond la liberté véritable avec le simple arbitre ou la simple capacité de choix, puisque la question a été soulevée ce matin. En outre, le contractualisme, pour cette même raison, en réalité, réduit les rapports de l'individu à l'État à des rapports de stricte utilité, ou à des rapports de finalité extérieure, ou à des rapports qui relèvent du schéma moyen-fin. Enfin, tout cela revient en réalité à une réduction, à une confusion des principes du droit public avec ceux du droit privé. Alors, je vais aller relativement vite ici, on pourra peut-être en revenir dans la discussion, mais ce qui me semble extrêmement intéressant dans la critique du contractualisme telle qu'elle se donne à lire dans les Grundlinien, c'est que l'ennemi privilégié que prend Hegel pour effectuer cette critique, c'est très précisément Rousseau. Rousseau, je pense, est un des auteurs, alors les termes n'y sont pas, mais je pense que le problème y est chez Rousseau. Rousseau peut pourtant être tenu comme celui qui, d'une certaine manière, pense l'État contre la société civile ou contre certains effets de la société civile qu'il lit possiblement comme de stricts rapports de maîtrise à servitude. Pour sortir de cela, il faut redoubler l'artifice et passer à l'État. Rousseau encore, je le rappelle, qui donne pour sous-titre à son contrat social du droit politique. L'idée d'un droit qui, justement, est autre que sans doute que des simples rapports de droit privé. Or, toutes les critiques de Hegel consistent à dire que Rousseau a bien vu ce qu'il fallait viser. Mieux encore, sans doute a bien vu le but que l'on devait se fixer quand on pense l'État. Le problème, c'est que les moyens qu'utilise Rousseau pour parvenir à une telle chose, eh bien, rendent tout à fait impossible qu'il y parvienne. Et là, c'est le point du contrat. On ne peut jamais parvenir au but qu'a pourtant très bien détecté Rousseau et qui est bien le but qu'il faut rechercher, celui de l'État véritable, d'un tout qui n'est pas réductible à la somme de ses parties, qui n'est pas un simple agglomérat des volontés individuelles, mais constitue quelque chose d'autre. Rousseau a bien vu qu'il fallait viser cela. Mieux encore, il a bien vu la profonde affinité de la volonté et de la pensée. Le problème, c'est que les moyens qu'il propose pour parvenir à la constitution d'une telle chose, à savoir le contrat, eh bien, rendent tout à fait impossible qu'il puisse parvenir au but qu'il a posé. Alors, le fait que ce soit Rousseau qui soit pris pour ennemi sur ce point me paraît particulièrement intéressant, notamment parce que Rousseau, comme d'ailleurs cet autre grand penseur de l'État et de la souveraineté qu'est Hobbes, voit bien, et qui est aussi un contractualiste, voit bien que la grande difficulté que l'on a avec l'État, c'est d'arriver effectivement à partir, puisqu'il part de là, à partir de volontés individuelles, faire une sorte de saut qui puisse permettre la constitution, encore une fois, d'un tout qui soit doté d'un principe de cohésion interne, et encore une fois, un tout qui ne soit pas réductible à la somme de ses parties. Alors, cela, en vocabulaire rousseauiste, en réalité, le problème est tellement bien vu que Rousseau pose bien deux termes. Il faut distinguer, dit Rousseau, entre agrégation et association. Et seule l'association est véritablement, permet véritablement de constituer un lien qui soit politique. Cette distinction, on pourrait dire qu'elle coïncide peu ou prou à la distinction faite par Hegel, donc alors entre ce que lui appelle association, hein, Gemeinsamkeit, et réunion véritable, que serait l'État sous le terme de Vereinigung. Le problème, alors si il faut reconnaître à Rousseau, dit Hegel, d'avoir rationnellement pensé le fondement de l'État au prisme du concept véritable de volonté, c'est-à-dire l'autodétermination et l'autonomie, le gros problème de Rousseau, c'est d'avoir posé comme distincte, voire comme opposée en réalité, la volonté particulière, celle de l'individu qui contracte, et la volonté universelle en laquelle consiste l'État. Et plus avant, l'erreur majeure de Rousseau est d'avoir en réalité par là subordonné la seconde à la première, et dès lors d'avoir fait de l'État et du tout qu'il est quelque chose de relatif à la volonté de l'individu singulier, et dès lors qui serait simplement dépendant de ce qui peut bien se présenter en regard comme simple arbitre ou bon plaisir. Ou alors, si tel n'est pas le cas, ça conduit à ne voir dans l'État que quelque chose de strictement tyrannique. Autrement dit, bien que la conception rousseauiste de l'État, et cela de juste, qu'elle repose sur un fondement rationnel, dit Hegel, et non purement empirique, l'erreur de Rousseau, eh bien, c'est d'affirmer, en dernière instance, la primauté logique et même chronologique de la volonté particulière, celle de l'individu singulier, sur la volonté universelle, celle de ce tout éthique qu'est l'État. De cela découlent nécessairement des thèses contradictoires de la position de Rousseau avec ce qu'elle prétend penser et ce qu'elle prétend établir, et des difficultés que, bien qu'il en ait, Rousseau ne peut résoudre et qui sont en réalité autant d'écueils de sa position contractualiste et qui manifestent l'erreur en réalité qui en est au principe. Alors, ces erreurs, elles se laissent saisir sous deux aspects que je ne vais pas pleinement développer. Ben, le premier problème, c'est qu'en partant des volontés individuelles qui contractent et qui passent ensemble une convention, eh bien, en réalité, il est impossible de penser une volonté véritablement universelle et un État, dès lors, véritablement rationnel, et c'est le premier point. D'autre part, et conjointement, si on s'y prend comme s'y prend Rousseau, il est en réalité impossible, à partir d'un tel point de départ, de concevoir de manière convaincante la liberté et la satisfaction de la particularité à même l'État. Je vais très vite sur le premier point. D'une part, si on pose comme séparée et comme première la volonté de l'individu singulier et que l'on fait de l'union de celle-ci avec d'autres le fondement de l'État et l'établissement du principe de l'État, eh bien, il est rigoureusement impossible, affirme Hegel, de parvenir à ce qui est pourtant correctement recherché et correctement posé par Rousseau, à savoir une volonté véritablement universelle, et par là, à la rationalité véritable auquel répond le concept d'État. En partant du particulier, tout ce qu'on peut avoir au mieux, c'est du général, jamais de l'universel. L'universel suppose de faire un saut, saut qu'il n'est pas possible d'opérer à partir du seul conglomérat ou du seul agrégat des volontés particulières. Mais si, et c'est le second point, mais si, d'autre part, on tient un petit peu plus fermement que j'ai l'air de le faire ici, la distinction rousseauiste entre volonté générale et volonté de tous, et qu'on comprend dès lors la volonté générale rousseauiste comme résidu, comme n'étant pas seulement un simple agrégat des volontés particulières, le problème, c'est que la seule manière, en ce cas, qu'on a de comprendre cette généralité, eh bien, c'est justement comme le résidu de l'abstraction de tout ce qu'il y a de particulier en chaque volonté singulière, auquel cas la sorte d'universalité ainsi déterminée n'est jamais qu'une universalité vide, abstraite, puisqu'elle est abstraction faite du particulier, et c'est ce qui permet de comprendre les conséquences possiblement terroristes auxquelles a pu donner lieu la pensée de Rousseau. Autrement dit, les moyens qu'utilise Rousseau sont incompatibles et sont même contradictoires avec la fin qu'il vise et qu'il a pourtant correctement conçue, à savoir que l'État est, selon son concept, la volonté véritablement rationnelle. Et à celle-ci pour principe. Et là, je vous renvoie au texte 4 de l'exemplier, qui est toujours un extrait de la très longue remarque du paragraphe 258 des Grundlinien. Le problème, en effet, c'est que si on pose et qu'on part du primat de la volonté subjective, non seulement l'existence de l'État et l'appartenance de l'individu à l'État se présentent comme irrémédiablement contingentes, dépendantes de l'opinion et du bon vouloir particulier, mais encore, et c'est le point essentiel ici, la rationalité dont l'État se voit alors doté n'a rien de véritable. Rationalité véritable qui, dit Hegel, abstraitement considérée, consiste de manière générale en l'unité de compénétration de l'universalité et de la singularité. Autrement dit, là, si on la considère concrètement, s'agissant cette fois de la politique, quant au contenu, elle consiste en l'unité de la liberté objective, c'est-à-dire de la volonté universellement substantielle, et de la liberté subjective, celle du savoir individuel et de la volonté cherchant à atteindre ses fins particulières. Je ne parle pas moi-même d'une manière aussi horrible. Je citais ici Hegel et donc l'extrait qui est donné en texte 4 de l'exemplier. Donc, le problème, au fond, c'est que le résultat légitimement escompté et exigé par Rousseau, à savoir, encore une fois, que l'État est véritablement pour principe la volonté universelle, ce résultat ne peut être donné par les causes qu'il en donne, à savoir la réunion des volontés particulières sous la modalité d'un contrat, en effet, et donc de détermination de droit en réalité privée. En effet, le contrat, par définition, non seulement suppose une égalité des parties, ce qui ne saurait évidemment être le cas ici, mais encore, et d'autre part, le gros problème du contrat pour penser véritablement l'État, c'est qu'il maintient les éléments qu'il met en prise, en l'occurrence des volontés, dans un rapport d'extériorité, de telle sorte encore que le seul résultat qu'il peut avoir, eh bien, c'est du commun. Au mieux, jamais de l'universel véritable, puisque les parties demeurent ici subsistantes par soi. Autrement dit, la critique est assez affreuse pour Rousseau. Je laisse de côté la question de savoir si elle est justifiée, mais ce que Hegel affirme, c'est que Rousseau, au fond, ne peut pas parvenir à penser pleinement l'État, ni partant, à penser véritablement le droit politique, qui est pourtant le sous-titre et comme l'un des mots d'ordre du contrat social. Et c'est bien, encore une fois, la forme du contrat qui implique cela. Alors, je vais en venir là très très rapidement à ma dernière partie. Il me reste, Monsieur le Président, il me reste.
Il vous reste que 2 minutes d'après mes calculs, mais je peux me tromper. Donc, je peux vous accorder 5 minutes. Je pense que ça suffira.
Il me reste, c'est vrai, ah, je pensais que j'avais commencé. Oui, j'ai commencé à moins le quart. D'accord, donc c'est horrible.
Non, mais vous pouvez avoir. Vous êtes l'organisatrice, donc finissez votre exposé sans. Mais ne faites pas un quart d'heure, ne faites pas un quart d'heure.
D'accord, je vais tout de même raccourcir. Alors, ce qui importe en réalité pour Hegel, pour penser véritablement l'État, c'est de parvenir à passer d'un rapport d'utilité, d'un rapport de finalité externe à un rapport qui soit véritablement un rapport d'immanence des fins particulières à la fin universelle. Alors, c'est précisément ce que Rousseau essaie aussi, hein, essaie de faire, mais selon Hegel, les moyens qu'il emploie pour viser la chose, eh bien, précisément, ne fonctionnent pas. Alors, il faut cependant être plus précis ici, parce que Hegel reconnaît que l'État se présente, certes, d'une certaine manière, d'un certain côté, aux individus comme une forme qui reste une forme de nécessité extérieure. En effet, en regard des individus, ils se présentent bien toujours comme une sorte de puissance supérieure de laquelle ils sont dépendants et à laquelle, dès lors, ils doivent être subordonnés. Cependant, cette extériorité et cette nécessité de la puissance étatique ne se confond pas, et c'est tout l'enjeu du concept hegelien d'État, je crois, ne se confond pas avec l'exercice sur les individus d'une puissance aveugle, telle que celle de la nature, par exemple, ou plus avant, sous une modalité quelque peu différente, telle que le marché, par exemple, où les lois de l'économie politique peuvent sembler s'imposer aux individus sans qu'ils ne puissent s'en saisir dans la sphère sociale. Or, le pivot, précisément, de la différence entre les deux réside dans le rapport entre les fins, celle particulière de l'individu et celle universelle de l'État, d'autre part, qui est en jeu dans les différents cas. Dans la société civile, en effet, la fin universelle est effectivement réalisée, celle de la substance éthique, demeure irréductiblement extérieure au vouloir des individus, à leurs intentions et au contenu conscient de leur volonté. En regard, l'État, et là est la clé, pour autant justement qu'on ne le comprend pas comme simple appareil et pour autant qu'on suive l'élaboration justement de ce concept que propose Hegel, l'État, eh bien, il est au contraire, écrit Hegel, je cite là le paragraphe 261, l'État est fin immanente des sphères du droit privé et du bien-être privé, de la famille et de la société civile. De même, il est bien compris et bien posé la fin immanente de l'agir des individus, fin dont ils peuvent aussi se saisir consciemment. Alors, comme il me reste très peu de temps, je vais vraiment, vraiment accélérer là pour ramasser un petit peu les choses. Donc, en gros, si on voit le tableau, on a cette idée que la société civile, c'est le système de l'atomistique. La caractérisation du droit en cette sphère, c'est la compostibilité et l'entrepêchement des arbitres. Et l'universalité qui est bien présente ici, elle se trame toujours comme dans le dos des individus sans qu'ils puissent véritablement en décider, ni sans qu'ils puissent s'en saisir, véritablement la connaître ou s'en saisir pleinement rationnellement. En outre, on a une séparation des volontés particulières, de la volonté particulière et de l'universalité. Le but de cette sphère, c'est, Sabina l'a rappelé, hein, le plein déploiement du principe de la particularité du sujet. En regard, l'État, et je crois que le secret, au fond, si on peut parler ainsi du droit public, est ici, et c'est aussi ce qui donne, je pense, l'argument le plus fort pour dire que la pensée hegelienne de l'État est tout sauf un étatisme, si on entend par là l'imposition d'un appareil de coercition extérieure. L'État, en regard, ce qu'il met en jeu, c'est cette compénétration de l'universel et du particulier. Il est le lieu, il est l'élément d'un plan d'immanence qui donne la spécificité du droit public, dans le même temps que c'est bien le plan du droit étatique et au premier chef de la Constitution qui permet une telle chose. En effet, si la société civile est, je l'ai dit, État extérieur, l'État en regard est réunion en tant que telle, affirme le paragraphe 258. Et cette réunion, elle a aussi pour caractéristique première eh bien, le fait qu'en l'État, ce qui se réalise, c'est bien aussi cette unité de la volonté et de la pensée. Je vais essayer d'expliciter ça très, très rapidement. Ce qui caractérise l'État, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Ce qui n'est pas le cas de la manière dont se posent les choses dans la société civile. Et au fond, ce qui se trame, je crois, dans cette détermination de l'État chez Hegel et cette liaison de la volonté et de la pensée, c'est aussi une caractérisation de la politique comme ayant pour question essentielle la question de savoir qui décide. Étant entendu que cette idée de la décision, je vois les schmittiens remuer, je vais expliciter ça, étant entendu que cette question de la décision n'est absolument pas un décisionnisme chez Hegel, précisément parce que le système, le syllogisme des pouvoirs en lequel consiste la Constitution, prévient aussi pour part l'arbitraire de cette volonté, en mettant aussi en jeu des éléments, non seulement des systèmes de limitation entre des pouvoirs, mais aussi parce qu'elle met en jeu des aspects qui sont fondamentalement relatifs à la connaissance. Et c'est la détermination profonde de la volonté. Le concept important et qui est le concept de droit constitutionnel que réinvestit ici Hegel, c'est évidemment le concept hegelien de constitution. Et la constitution, elle est, dit Hegel, la rationalité développée et effectuée, Autrement dit, la Constitution n'est pas, pour reprendre certains des éléments de la discussion qui avait lieu tout à l'heure, la Constitution n'est pas division et séparation des pouvoirs selon la différenciation d'entendement qui ne conçoit ceci que comme autant de parties subsistantes par soi et qui ne seraient liées que selon un rapport de limitation et de restriction réciproque. Au contraire, dit Hegel, seule l'autodétermination du concept au-dedans de soi et non on ne sait quelles autres fins et utilités contient l'origine absolue des pouvoirs distincts. Alors, cette constitution rationnelle, qui est tout sauf une constitution seulement formelle, en réalité, c'est vraiment ce qui régit l'organisme même qu'est l'État, et ça ne se réduit évidemment pas au simple texte constitutionnel. La constitution rationnelle, elle doit être saisie, dit Hegel, comme organisme en lequel chacun des moments est certes distinct de chaque autre, mais dans lequel, dans le même temps, chacun est intrinsèquement lié avec eux, puisque chacun des moments ici présents, donc universalité, particularité, singularité, contient tous les autres. Et là, je rebondis sur la question qui était posée tout à l'heure. Je crois qu'on peut vraiment lire, alors j'en discuterai volontiers dans les questions, on peut vraiment lire aussi l'État hegélien comme articulation des moments de la décision. Et à cet égard, et c'est aussi comme ça qu'on peut... Alors, qu'est-ce que l'État ? L'État, c'est son attribut, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté au sens hegélien ? C'est l'idéalité des sphères particulières et fondamentalement, quel est le pouvoir de l'État ? C'est celui de décider. Or, ces moments de la décision, ils sont présents en chacun des pouvoirs, le pouvoir législatif dont il était question tout à l'heure, le pouvoir gouvernemental et le pouvoir princier, chacun est bien un moment de la décision, le moment de la délibération à travers le pouvoir législatif, le moment de la connaissance et de la détermination du contenu de la décision à travers le pouvoir gouvernemental et le moment formel du « je veux ». Qui est donné dans le moment principal. On ne peut pas dire que le pouvoir législatif est seulement un endroit ou un autre. Enfin, c'est contradictoire, je pense, avec l'idée hegélienne d'État et de constitution. Alors, l'organisme qu'est l'État, le syllogisme des pouvoirs qu'est l'État, est précisément, Sabina l'a dit tout à l'heure, la constitution politique qui ne peut évidemment ici se ramener, je l'ai dit, à l'idée de constitution seulement formelle. J'aurais voulu expliciter un petit peu ça, et je le fais vraiment très très vite, en fait la question que je voudrais poser, c'est de savoir comment cette idée de constitution, cette idée d'État elle-même, elle donne en réalité la clé de la transmutation, si l'on veut, des principes du droit privé en principe du droit public. Et cela se joue, c'est l'hypothèse que je défends, cela se joue au sein même de l'État. C'est l'État qui permet la publicisation du droit, ou pour le dire autrement, c'est l'État lui-même qui permet l'émancipation du droit de sa seule logique contractuelle à laquelle on est pourtant possiblement constamment renvoyé. Alors, j'aurais voulu le faire, mais j'ai déjà bien trop dépassé, en montrant, en réalité, en m'attachant là cette fois à l'institution de la chambre basse, et en montrant la manière dont c'est sur la base d'une organicité, en réalité, déjà présente au sein de la société civile et à travers la politisation de celle-ci dans la députation et à travers aussi la représentation, que va être permise justement cet enracinement, cette compénétration de l'universel et du particulier, dans le même temps que va pouvoir être réalisée la dimension de connaissance et d'universalisation des intérêts aussi par le fait qu'ils sont représentés dans la Chambre à travers cette institution. Alors, je dois passer très, très vite et je voudrais simplement dire quelques mots de conclusion. Je comprends bien que c'est parfaitement énigmatique dit ainsi. Je prendrai volontiers les questions sur ce plan. Alors, en réalité, la conclusion à laquelle on aboutit n'est pas une surprise, je pense, pour des Hegeliens. Il est bien évident qu'en réalité, la partition entre droit privé et droit public, chez Hegel, elle est de part en part redevable du développement du concept de volonté libre lui-même, et cela a plusieurs conséquences. Et c'est cela que je voudrais simplement énumérer pour terminer. D'abord, le fait que cette partition elles viennent du développement même de la volonté libre, ça implique aussi qu'il n'y a pas chez Hegel de réalisme, de réel dualisme, en tout cas pas du tout au sens évidemment du dualisme, de ce qu'on pourrait entendre par le dualisme juridique français, et cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de symétrie pour Hegel entre droit privé et droit public. La deuxième raison que je n'ai pas pu pleinement développer, c'est qu'en réalité, il y a une sorte de droit intermédiaire chez Hegel entre le droit privé et le droit public, et celui-ci se joue, je n'ai pas développé ce point, mais je veux bien expliciter ensuite, cette sorte de droit intermédiaire, il se joue au sein même de la société civile, et c'est un droit qui n'est pas du droit public stricto sensu, même si, comme tout droit, il est placé il est garanti par la puissance publique, mais qui n'est pas non plus un droit qui peut être réduit au rapport de droit privé caractérisé par le schème contractuel ou la liaison d'individus propriétaires. Il y a deux foyers de cette chose, hein, c'est la famille, évidemment, et c'est très bien montré par l'idée d'institution du mariage. Et on sait à quel point Hegel a pu dénoncer les abominations kantiennes qui consistent à penser le mariage sous la forme d'un contrat. Le second lieu, évidemment, et qui est fondamental, c'est la corporation et ses droits. Et ce qui est intéressant, évidemment, là, c'est que dans les deux cas, c'est par la liaison du droit au concept de sittliche Gesinnung, ou de disposition d'esprit éthique, que ces lieux permettent d'acquérir qu'il y a une distinction qui se fait, et c'est aussi par là que ces deux foyers, famille, corporation, vont pouvoir se présenter, dit Hegel, comme les deux racines éthiques de l'État, à même la particularité. Autrement dit, c'est aussi par elles que va pouvoir se faire au sein de l'État la transmutation ou la publicisation du droit, pour le dire ainsi. La deuxième conséquence très importante, c'est que deuxième conséquence du fait que la partition droit privé, droit public, elle est le résultat du développement du concept de volonté libre, c'est celle qui consiste à voir que si l'État est bien le divin sur Terre, comme il arrive à Hegel de le dire, pour la raison que ce qui donne la logique du droit en dernière instance, c'est la volonté libre elle-même, il faut dire que le droit public lui-même est en réalité dépassé et relativisé par la présence d'un droit supérieur. Un premier niveau, au niveau de la souveraineté absolue des États, c'est celle-ci qui va entraîner justement aussi une dimension conflictuelle du droit international public qui est seulement un quasi-droit, pour Hegel, précisément pour cette raison. Un second niveau, parce que l'instance de légitimation du droit public lui-même, du droit étatique et de l'État lui-même, n'est pas lui-même étatique. Il n'est strictement pas juridique resserré. Ce qui se fait valoir en dernière instance, je renvoie au dernier paragraphe là, des Grundlinien, c'est le droit absolu de l'esprit du monde qui n'est jamais que la figuration de la raison à même l'esprit objectif. Je terminerai, c'est vraiment ma dernière chose, je terminerai en disant que, à partir de là, il me semble que de deux choses l'une. Soit Kant a raison, les principes véritables du droit proprement juridique sont donnés finalement par le droit privé et à partir du noyau personne, propriété, et c'est ce que Kant me semble dégager aussi à partir d'un retravail considérable et magistral de l'adage ulpinien, voilà, selon lequel la justice c'est rendre à chacun sien, et on peut déployer les choses à partir de là. Alors si cela est vrai, alors l'État, tel que Hegel le pense, et avec lui le droit public, relève de quelque chose d'autre que du droit juridique. Alors, du droit politique, peut-être, je dis ça à l'Institut Villet, de l'institution, dirait plus volontiers Hegel. En tout cas, aux yeux d'Hegel, avec du droit conçu strictement de manière kantienne, on ne peut penser que la société civile ou encore un État réduit à finalement être en dernière instance un appareil de coercition. Soit, c'est l'autre hypothèse, soit l'État et avec lui la politique commande au contraire un retravail du concept juridique de droit. Cela montre donc précisément que la logique du droit privé, personne propriété, n'est évidemment pas le dernier mot du droit juridique. Et en effet, la thèse hegelienne me paraît énoncer que penser la politique et penser l'État comme élément de la liberté, cela commande de penser un droit véritablement émancipé de la logique contractuelle et du schéma du droit privé, avec son noyau, donc personne, personnalité. Mieux, l'État lui-même est lieu d'accomplissement de cette subversion de la vision purement privatiste du droit, le lieu de cette émancipation du droit relativement à son entente privatiste, et c'est aussi en quoi et pourquoi il est le lieu de la vérité, de la liberté véritable, non réductible à l'arbitre. Et il me semble que c'est sans doute ce qui fait la difficulté et la profonde originalité de la conception hegelienne de l'État, si rétive à la compréhension, précisément parce qu'elle brouille l'entente courante du concept d'État, au point que l'on peut peut-être dire, en forçant le trait, et en gros, que tout ce que la tradition désigne et que l'on désigne couramment sous le nom d'État correspond plutôt, la plupart du temps, en régime hegelien, à la société civile. Je vous remercie de votre très grande patience.